comme un commun. Une émission proposée par Interphase, le vendredi de 10h à 11h.
Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes des RPL sur l'émission Comme un commun, une émission consacrée au commun, troisième opus, où nous vous proposons aujourd'hui un fil rouge autour de l'économie des communs, comment vivre des communs, comment parler d'économie quand on parle des communs. Après avoir abordé la question des communs en général autour d'une première émission, d'avoir parlé brièvement de la question des communs urbains au travers d'un séminaire, nous vous proposons aujourd'hui de prendre le temps de réfléchir à comment les communs peuvent 1. Transformer l'économie ou 2. Peuvent réellement transformer notre manière de concevoir le mot même d'économie. Pour réfléchir avec nous sur ces problématiques aujourd'hui, Interphase a le plaisir d'accueillir 3 représentants particulièrement engagés dans ces réflexions, que sont Guillaume Delevac, représentant de l'APES, acteur pour une économie solidaire, Christian Mailleux, que vous connaissez déjà, qui est chercheur au CNRS impliqué dans le projet Créacite que nous coportons avec Interphase, et Julien Lecaille, contributeur au commun, fortement engagé dans l'Assemblée lilloise des communs, entre autres, dans ses nombreuses activités autour des communs. Alors, aujourd'hui, l'idée est véritablement de commencer par une mise en contexte autour de économie des communs, communs et économie. Parlons-nous de 2 choses complètement opposées ? Sommes-nous dans un monde qui, finalement, a la nécessité de repostuler qui fait quoi et comment ? C'est ce que nous allons tenter de comprendre au travers d'une mise en contexte que nous propose Christian Mailleux.
Comme un commun avec Interphase.
Christian, à toi.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes. D'abord, peut-être s'agissant de l'économie, de la question de l'économie autour des communs, pour les communs, qui pose la question d'une façon plus globale d'une économie alternative finalement. D'abord, je pense, il faut s'autoriser à en parler. L'économie semble une affaire d'experts, indépendante de toute question sociale, politique. Ce serait une affaire d'experts, une affaire tellement objective que l'on n'aurait pas de vision différente possible. Et puis, on pourrait, et on nous oppose souvent, la question du réalisme économique. Nous n'aurions pas les moyens, collectivement, de faire autre chose que ce qu'on nous propose, que ce soit en termes de financement public ou en termes de régulation économique. Nous serions dans un système de contraintes telles que nous ne pourrions pas nous autoriser à innover et à penser les choses différemment. Alors, nous avons déjà une réalité, avant d'en venir plus spécifiquement à la question des communs, d'une économie pour et autour des communs, nous avons déjà la réalité de la question d'une économie alternative avec l'économie sociale et solidaire, et l'économie solidaire en particulier, qui pose vraiment la question d'une autre approche de l'économie. Il y a beaucoup d'organisations associatives, entreprises, qui se mettent déjà dans cette logique d'une économie dite solidaire. C'est une réalité déjà suffisamment forte pour impacter, je dirais, la réalité sociale, politique et économique des pays et des territoires. Donc, finalement, nous avons là les bases de quelque chose qui peut être envisagé autrement et qui peut être en lien avec les initiatives solidaires, les pratiques concrètes qui s'inventent, qui se créent dans les territoires. Et je voudrais insister sur ce point pour d'abord commencer à réfléchir sur une économie possible à partir des communs. Je mettrai en avant Un premier élément qui est celui de tout simplement la nécessité de prendre en compte la réalité des pratiques et de l'économie qui se construit, qui se bricole, je dirais, dans le bon sens du terme, autour de pratiques locales, d'une économie pratique, d'une économie de proximité qui cherche, qui trouve les conditions de sa viabilité. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'imposer des grandes normes, des grands principes économiques, même si, s'agissant des communs, il y a des critères et des principes qui nous permettent de dire que l'on est dans une situation de commun, de ressources portées en commun et d'une gouvernance politique et économique permettant de qualifier les pratiques collectives portées en commun. Mais il ne s'agit pas de réfléchir à partir d'une mise en œuvre dogmatique de principes économiques, mais aussi de regarder tout simplement comment on peut construire des rapports économiques entre des acteurs qui deviennent autonomes, qui font valoir un certain nombre de droits économiques, de citoyenneté économique, et qui ainsi peuvent être créés des conditions d'une économie qui s'appuie et qui donne une réalité économique à des initiatives portées par des acteurs qui inventent des organisations spécifiques, inspirées par des modèles du partage et de la coopération, mais qui aussi tentent de trouver, de valoriser finalement, sur le plan économique, des pratiques de solidarité locale et peuvent ainsi espérer les financer, les rendre plus ou moins pérennes. Tout ça est en construction, en émergence, à condition d'avoir les yeux, je dirais, ouverts et la possibilité d'être vraiment créatif dans la façon d'aborder le lien entre l'action collective, la dynamique de l'appui que peuvent apporter les institutions publiques, l'action publique, et surtout la dynamique d'acteurs qui se construisent ensemble les conditions d'une viabilité économique en allant porter ensemble le financement des ressources dont ils ont besoin, dont ils font usage, et pour lesquels peut se créer aussi des rapports qui hybrident finalement les modèles économiques, qui ce soit ceux de fonctionnement de type marchand, régulé par l'action collective, et des modèles qui peuvent être aussi des modèles de la réciprocité. Tout n'est pas affaire de rapports marchands dans l'économie qui se construit autour des communs. Il y a aussi d'autres formes d'échange, d'autres rapports de réciprocité qui s'inventent. Et puis, il y a la question de l'appui public et de la redistribution publique, dont on nous dit qu'elle doit être réduite à rien pour laisser le libre cours au marché. On voit bien que ça n'est pas une réponse pour l'ensemble des populations qui sont laissées en fait un peu en dehors du fonctionnement économique dominant, et que là il faut trouver des formes qui hybrident toutes ces ressources.
Du coup,
et
y a-t-il
les communs
opposition...
offrent une nouvelle opportunité et des potentialités pour avancer et aller plus avant et plus résolument vers ces nouvelles formes d'action économique.
Du coup, y a-t-il opposition entre marché et commun ?
On pourrait dire que les communs, bien évidemment, et qu'une économie autour des communs est une économie qui se dresse contre le pouvoir absolu des marchés, mais pas tellement des marchés en tant qu'échange marchand, mais surtout des marchés complètement dominés par des logiques qui sont des logiques financières. qui est la réalité dans laquelle opère maintenant le fonctionnement des marchés. Mais bien évidemment, c'est déjà l'expérience d'une économie dite solidaire qui s'oppose au marché comme absolu et comme s'opposant à une économie qui ne serait que centrée sur le fonctionnement et calée sur le fonctionnement d'un marché que l'on dont le fonctionnement finalement n'est pas remis en cause. Mais les communs sont tout à fait compatibles avec des rapports marchands régulés par le fonctionnement des communs qui oblige à repenser la façon dont on articule rapport marchand et réciprocité. Et c'est ces nouvelles formes-là sur lesquelles on essaie de réfléchir, là aussi à partir de la pratique de ce qui s'invente comme régulation dans les territoires, dans les particularités des situations et des écosystèmes, comme on dirait maintenant, entre des acteurs qui essaient
de... Donc régulation et nouvelles formes d'économie qui soient plus dans une forme de réciprocité. Réciprocité entre les acteurs, réciprocité vis-à-vis de la puissance publique. En tout cas, c'est dans ce sens-là que les choses sont en cours de réflexion. Quand on aborde cette question de réciprocité, de régulation, Guillaume, toi qui es à la PES, donc acteur pour une économie solidaire, ces questions de régulation, ces questions de réciprocité, de lien avec la puissance publique doivent t'évoquer certainement à la fois des formes et des exemples d'organisations qui sont tout à fait en lien avec ce que nous évoquait Christian.
Oui, exactement, je voudrais quand même juste appuyer ce qu'a dit Christian, ce qu'il a dit. Il est évident qu'on ne peut pas détacher la notion d'économie et de politique, et pas dans un sens politicard, on s'entend bien là-dessus, mais dans le sens de quel choix de société on fait. C'est bien ce qu'essaye de porter comme parole un réseau comme dans lequel je travaille, et puis aussi les acteurs qui le composent surtout, qui regroupent des acteurs de l'économie solidaire, qui mettent en œuvre les principes d'hybridation des ressources que tu dis. Et on parle pas forcément d'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut considérer de manière politique qu'il y a ces trois types d'actes économiques, et quand je raconte un jeune bénévole qui tient un bar, qu'il fait un acte économique en faisant ça, s'il n'y a pas pensé, c'est quand même quelque chose qu'il considère. Et en lui disant, là-dessus, tu es déjà un citoyen économique. Et à plus grande échelle, on peut voir effectivement, puisque tu me posais la question de la régulation, des rapports avec les politiques publiques, et que Christian répondait sur la question du rapport au marché, des exemples qui effectivement... viennent un peu essayer de trouver des modèles, en tout cas des façons de faire. Et je pense là au domaine de la petite enfance, pas loin de chez nous, vous connaissez... Enfin, le domaine de la petite enfance a été attaqué par le marché comme domaine des services à la personne de manière générale, où la libéralisation du marché a fait que beaucoup, beaucoup d'acteurs lucratifs sont arrivés sur des principes qui ne sont pas... ceux de l'économie solidaire, et certains ont essayé de trouver des solutions un peu différentes sur des secteurs qui pouvaient un peu s'essouffler. On a connu les crèches parentales en mode associatif qui ont beaucoup fonctionné pendant un temps, et dont il semble que le réseau qu'ils portent, je pense au réseau Colline, ACEP, a voulu aussi apporter un coup neuf en essayant le coup de la SIC, puisque je sais que tu voulais m'en faire parler, de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui est un statut d'entreprise coopérative qui essaye au mieux de mêler toutes les parties prenantes autour du projet. Et là, autour de la petite enfance, il y avait de l'enjeu. Il y avait l'enjeu de faire un modèle d'entreprise bénéficiaire, bien sûr, mais qui intègre toutes les parties prenantes. Alors non seulement les professionnels, les administrateurs bénévoles, mais aussi les parents et le territoire dans la gouvernance de la structure, et avec aussi on peut parler de berceau dans le domaine des crèches, et avec une partie des des places réservées par la collectivité, une partie des places réservées par le domaine privé, pour essayer de trouver un équilibre et un modèle économique qui se tient autour de, juste pour parler de ce sujet-là, du sujet de la petite enfance. On pourra parler peut-être plus tard d'autres modèles, je sais qu'on va aborder le numérique plus tard, mais aujourd'hui, mais même dans le secteur associatif qui représente aujourd'hui 80% des acteurs de l'économie solidaire, on est tous à la recherche, tu parlais des collectivités, d'une co-construction avec les politiques publiques, et il faut que les discussions avec les collectivités se situent d'une manière horizontale et sans rapport de domination. C'est ce qu'essayent de mettre en œuvre les acteurs de l'économie solidaire au quotidien.
Donc les SIC, selon toi, sont une des manières de pouvoir répondre à cet enjeu de co-construction. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Quel est le rôle de l'APES vis-à-vis des SIC de notre territoire ? Ouais. Peut-on avoir quelques informations sur la réalité des SIC en région Hauts-de-France ?
Ah zut, j'ai pas préparé mon dossier technique avant de venir, mais... Alors, le rôle de l'APES vis-à-vis des SIC, comme avec tous les acteurs de l'économie solidaire, on se donne pour mission de les valoriser, de les appuyer et puis d'essayer de mettre en place des dispositifs un peu expérimentaux dont les acteurs de l'ESS peuvent s'emparer pour ensuite se développer. Je pense notamment à là, on a beaucoup de discussions autour de l'impact social dont on préfère parler d'utilité sociale. C'est comment les acteurs peuvent s'emparer de ce sujet-là pour parfois se pouvoir discuter d'égal à égal avec d'autres acteurs économiques ou publics. Les SIC en région, on en a quelques-unes. Alors en plus maintenant on est passé en région de France, mais donc du coup j'aurais pas de chiffres à te donner aujourd'hui, mais à part Méli-Mélo dont je te parlais tout à l'heure, on peut sur la métropole illoise et maintenant Arras parler de l'île à autopartage qui est une SIC dont la ressource commune est la mobilité, j'ai envie de dire. Et je pense alors là pour être dans le dur, c'est-à-dire une société coopérative d'intérêt collectif qui travaille en plus sur les logiciels libres, qui a été une des premières à se fonder en région, qui est CLIS 21, qui est une société de prestations informatiques autour des logiciels libres, mais qui en plus s'inscrit dans les mouvements d'éducation populaire, etc. C'est celle que je peux citer aujourd'hui qui me vient en tête au moment où tu me parles, mais on voit là vraiment qu'il y a des modèles et tout cela accompagné bien sûr par l'Union régionale des sociétés coopératives qui les soutient techniquement et dont on est voisin là où on travaille. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a là des modèles qui intéressent à la fois les acteurs qui veulent innover économiquement, les collectivités qui cherchent des nouveaux modèles, parfois dans des principes aussi de rénovation urbaine. On voit beaucoup de rénovation urbaine autour de nous. Et il y a les collectivités qui cherchent de nouveaux modèles pour ces acteurs-là. Et les SIC intéressent fortement.
Et avez-vous l'impression que ces SIC sont suffisamment connus, suffisamment visibles de la population en général? Est-ce qu'il y a un enjeu de visibilité, de valorisation de ce que sont les SIC?
Pour ma part, j'en suis persuadé, mais j'ai assez parlé, donc je vais laisser parler mes collègues.
Julien?
Moi, c'était une interrogation un peu plus générale. Au niveau du grand public, on parlait d'impact social. Il y a la notion d'entrepreneuriat social qui monte pas mal, qui est proposée comme une forme alternative. Et du coup, la question qu'on peut se poser légitimement, c'est est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est une chose différente que cet entrepreneuriat social qui est largement en émergence, en tout cas dans les discours et dans le marketing. Je pense notamment à un certain nombre de start-up qui se mettent sur des créneaux d'entrepreneuriat social. Est-ce qu'on parle de la même chose ou est-ce que c'est quelque chose de différent ? C'est une question ouverte, hein. C'est une question pas simple non plus, qui revient souvent.
Bien sûr, moi j'ai tendance à dire que s'il existe des mouvements différents, c'est qu'il existe des réalités différentes. Il y a aujourd'hui des mouvements pour représenter l'économie solidaire, d'autres mouvements pour représenter l'entrepreneuriat social, d'autres mouvements pour représenter les entrepreneurs sociaux, qui est encore un petit peu autre chose. Mais s'il y a d'abord un point commun à mettre entre tous ces acteurs, c'est une recherche d'utilité sociale dans leur activité, c'est-à-dire d'améliorer la société dans laquelle ils se trouvent, ou au moins le public auquel ils s'adressent. S'il y a une différence à mettre en avant, c'est au niveau de la gouvernance des entreprises. Les entreprises qui se réclament de l'entrepreneuriat social pratiquent le plus souvent une société de capitaux classiques comme on la connaît, mais entraînée par une volonté de la part de ses dirigeants et de ses salariés d'être responsable sur ses activités. Mais au niveau de la gouvernance et du partage du capital et de leur rétribution, c'est à peu près là que peut se situer la différence entre l'entrepreneuriat solidaire et l'entrepreneuriat social.
Christian, tu voulais ajouter quelque chose toi aussi par rapport à cette notion ?
Oui. Moi, je pense que pour parler de réalité différente, il faut des mots différents. Et donc, il y a des formes qui s'expérimentent, qui sont des formes d'entreprises dites sociales, ou même on reprend le terme de start-up, pour lequel, personnellement, moi, j'ai beaucoup de... non pas de jugement a priori forcément négatif, mais je veux simplement souligner que là, on a une forme d'action économique avec les start-up qui consiste la plupart du temps à créer une activité, à penser immédiatement sa rentabilité dans des formes extrêmement traditionnelles et... une capitalisation traditionnelle, et souvent, dans le langage classique de la start-up, c'est quelque chose qui est destiné à être vendu très vite à un opérateur économique plus gros. On n'est pas là dans ce que cette économie alternative, viable, s'adressant à la réalité des publics, actuellement non seulement éloigné de l'emploi par exemple, mais aussi éloigné d'une forme de création et de dynamique de création économique pour eux-mêmes et pour les groupes, les collectifs, les communautés auxquelles ils appartiennent. L'entrepreneuriat social, alors là aussi, c'est souvent donné une finalité sociale, une coloration aux produits et services qui sont créés dans ce mode d'entreprendre que l'on qualifiera d'entrepreneuriat, mais avec des bases économiques et des formes de capitalisation qui peuvent rester complètement classiques dans la façon de penser l'organisation économique. Je pense que ce que l'on essaie de penser autour des communs, et on le voit bien avec l'exemple des SIC, est différent.
Alors c'est différent, ça pose aussi la place de la relation à la collectivité territoriale, et donc de fait ça pose la relation au territoire plus largement. Cette réflexion vis-à-vis des territoires, on va y glisser doucement après écouter un titre bien choisi, « Je glisse ».
Escapade dans
Vendredi, 10h-11h, c'est comme un commun.
Donc c'était Scotch et Sofa sur Je glisse. Et on glisse doucement mais sûrement sur la notion de chambre des communs. Alors pourquoi on parle de chambre des communs? C'est ce que Julien Lecaille va nous expliquer. Pourquoi avoir nommé en fait une autre instance chambre des communs quand on parle justement d'économie? Pourquoi la dissocier de l'assemblée des communs qui elle va plus être sur des aspects politiques, théoriques que ce qu'on peut le retrouver dans la chambre des communs et qui est une instance finalement encore peu connu, mais qui a un lien direct avec la discussion que nous avions précédemment, c'est-à-dire ce lien entre marché et commun, ce lien entre entrepreneuriat et commun, et plus généralement ce lien entre le territoire et les communs, et c'est-à-dire le territoire dans son aspect économique et les communs. Julien, peux-tu nous expliquer précisément ce qui se passe dans ce mouvement de chambre des communs ? Sommes-nous dans une spécificité propre au territoire lillois ? Y a-t-il des choses qui émergent sur d'autres territoires ? Et peut-on parler d'un processus, d'un développement ailleurs à l'échelle nationale ?
C'est pas complètement lillois, puisque c'est des réflexions qu'on va dire qui sont sur une échelle européenne, qui ont été beaucoup portées par des gens comme Michel Bowens, qui ont réfléchi, on parlait tout à l'heure de la notion de réciprocité, et cette notion de réciprocité qui est une notion importante, puisque on a des gens qui sont des entrepreneurs du numérique, ou qui travaillent sur la société en réseau, qui travaillent sur des choses comme ça, qui pense qu'il faut ouvrir des ressources, c'est-à-dire mettre des choses à disposition, donner à tout le monde la possibilité d'utiliser tel logiciel ou tel lieu ou tel véhicule partagé, on va dire par exemple, qu'on ouvre largement. Et à partir du moment où on ouvre les choses largement, il y a un problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui vont en profiter. Il y a des gens qui vont utiliser juste ce qu'ils en ont besoin, et il y a toujours une possibilité d'accaparement, de captation, de renfermement de la valeur qui a été ouverte, qu'on connaît par exemple dans le monde du logiciel libre. En fait, c'est pour ça qu'il y a des licences qui ont été mises en place, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a donné à tout le monde le droit de voir le code, de le diffuser, on ne pouvait pas le renfermer derrière. Donc c'est des garde-fous en fait qui doivent être pensés pour que on puisse à la fois arriver à partager des choses et que ces choses ne soient pas détruites, accaparées ou ne perdent leur sens initial. Et donc il faut inventer des formes de dispositifs pour permettre cela. Et on pense aussi bien à des acteurs qui ont de l'importance, des acteurs publics ou des acteurs privés, qui sont des gros acteurs. Et en fait, quand on confronte un gros acteur à un tout petit acteur, bah dans la relation, il est possible qu'il y ait une forme d'inégalité. Donc, le petit acteur se met en risque, en fait, en ouvrant les choses. Donc, une réflexion qui a été mise en place autour de cette notion qu'il faut qu'il y ait des réciprocités, des licences, des cadres juridiques, des institutions qui défendent ça. Et donc, à la base, c'est un jeu de mots qui est né aux États-Unis autour de l'idée qu'il y a une chambre du commerce. Donc, les gens qui font du commerce ensemble, ils se réunissent pour que le commerce se passe bien, pour se mettre d'accord, pour défendre leurs intérêts aussi. Et qu'à l'image de cette chambre du commerce, il fallait qu'il émerge des chambres des communs. Voilà, donc c'est l'histoire du jeu de mots. Mais c'est un jeu de mots qui porte pas mal, qui a du sens, qui est compréhensible, donc qui a commencé à se diffuser, qui était beaucoup dirigé vers des structures de solidarity economics, donc économie sociale et solidaire. Hein, c'est l'équivalent de dire, finalement, il faut des espèces de syndicats qui concernent les initiatives de SS, mais pas seulement, aussi plein d'autres initiatives qui portent de la valeur économique, qui ouvrent des usages, qui ouvrent des choses intéressantes, et que ces acteurs se mettent en lien et puissent parler à des institutions publiques, parce que les institutions publiques, elles cherchent à faire des choses et elles ont besoin d'interlocuteurs, en fait. Donc l'APES, par exemple, joue un rôle de réseau représentant quelque chose, et donc c'est intéressant toujours que des initiatives puissent se mettre en lien pour peser plus et défendre les choses. Mais au-delà de ça, il fallait aussi penser des questions de licence, donc les questions de licence à réciprocité qui est un axe important, et que dans les relations marchandes en fait entre des structures économiques se revendiquant des communs et d'autres structures plus importantes se revendiquant pas forcément des communs, et puisse y avoir des relations régulées par la notion de licence à réciprocité, avec un fonctionnement relativement simple, on va dire, hein, c'est que si c'est un acteur qui ne cherche pas le profit, ben, la ressource peut être utilisée de manière gratuite ou libre, et si c'est un acteur faisant du commerce avec cette ressource, eh ben, il faut que l'acteur qui fait du commerce puisse à la fois utiliser la ressource et payer le juste prix pour cette ressource.
Donc on est à la fois dans une instance qui va faire un peu du lobby et en même temps dans une instance qui permet de tisser des passerelles avec des acteurs qui, s'ils ne sont pas au fait de comment fonctionnent les communs, au minima, puissent être en mesure de comprendre le processus pour pouvoir redistribuer, recontribuer à la pérennisation de la ressource.
Oui, en fait, c'est mettre en place des circuits économiques qui puissent être à la fois des circuits économiques propres aux communs, en interne, en fait, à différentes structures qui échangent de la valeur entre eux, et aussi qui est une fonction externe, c'est-à-dire échanger de la valeur en dehors de cet univers pour pas être dans une réserve d'indiens protégée, isolée, dans une île utopique, mais en étant pleinement inséré dans l'économie réelle, mais ayant des processus équitables, en fait.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple pour nourrir cette réflexion par rapport à une discussion actuelle menée dans la Chambre des communs sur un cas particulier, une prestation sur laquelle plusieurs acteurs sont en train de travailler et où vous réfléchissez à comment mettre en place finalement un processus qui vous permette de réfléchir concrètement à comment va fonctionner la Chambre?
Alors, pour l'instant, on est encore peu nombreux dans cette structure. Beaucoup des gens qui sont des entrepreneurs issus du numérique ou la transformation des organisations ou du monde de la coopération. Pour l'instant, les relations de réciprocité s'effectuent sur le mode du don, hein, qui est un premier niveau, à savoir quand on met librement des études, des réflexions, des bases de données à disposition des différents acteurs. Ben, les gens qui à un moment l'utilisent dans le cadre d'une prestation, qui donc en font un usage économique, procèdent à un don en fait pour dire ben voilà, on a utilisé ça, on a trouvé ça intéressant, on fait un don. Donc là c'est un niveau, mais c'est pas encore un niveau de la réciprocité formelle. L'autre niveau sur lequel on est en train de travailler, c'est l'intervention en fait des gens qui sont des développeurs de lieux, de tiers-lieux, de lieux de partage, des lieux de coworking, en fait, des lieux intermédiaires entre le domicile privé et un lieu qui serait un lieu purement de travail, donc des lieux qui mixent différentes fonctions. Il y a plein de gens qui réfléchissent à développer des lieux, qui ont des projets, qui travaillent, qui développent des outils. Et donc là, il y a des mises en place de contrats de réciprocité pour quand on fait des événements publics, en fait, avec notamment des institutions publiques qui cherchent à mettre en place des festivals, des salons, des rencontres, qu'il y ait un niveau intermédiaire qui soit entre la prestation et le bénévolat. À savoir que la prestation, c'est une intervention régulée par un contrat avec un certain nombre d'objectifs, avec des contraintes qui sont clairement définies. Et d'un côté, de l'autre côté, le bénévolat, c'est beaucoup plus libre, mais il n'y a pas de rétribution économique possible. Et donc, on travaille, en tout cas extrêmement limité, et on travaille à une formule qui serait intermédiaire, avec une intervention libre, porteuse de valeur, et qui puisse avoir une forme de rétribution, donc de valeur économique, qui puisse être rétribuée. Donc, c'est le principe de la rétribution des contributions. Et donc, on travaille en ce moment à rédiger des contrats à ce sujet-là, des contrats qui auraient la caractéristique de laisser une grande liberté aux gens qui les accepteraient.
D'accord, donc contrat, réciprocité, il y a un lien direct qui peut être fait avec finalement cette réflexion qui est aujourd'hui de plus en plus monnaie courante autour des monnaies complémentaires. Je le fais pas exprès. autour des monnaies complémentaires.
Vous écoutez Comme un commun sur RPL.
Donc les monnaies complémentaires, peut-être revenir un tout petit peu sur qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, parce que quand on parle justement de ce don, de cette réciprocité vis-à-vis d'un service rendu, alors on pense au troc, bien sûr, on pense, comme tu le disais, au don, et puis on pense peu à peu à ce que sont ces monnaies complémentaires, c'est-à-dire que finalement, on essaye de trouver une autre voie que la monnaie financière traditionnelle émise par nos banques nationales, voire par notre banque centrale européenne, pour pouvoir être dans un justificatif qui permet de signer un contrat entre personnes physiques, voire parfois entre personnes morales, sur un seul et même territoire, et qui va bénéficier de fait à celui qui a donné la prestation, donné le service, et à celui qui en a bénéficié. Mais qui en même temps va pouvoir aussi, dans un tierce rapport, bénéficier au territoire. Alors c'est là la spécificité des monnaies complémentaires, c'est qu'au-delà d'être dans un lien de réciprocité entre celui qui fait et celui qui reçoit, ou celui qui donne et celui qui reçoit, il va y avoir aussi un impact pour les acteurs du territoire duquel ils sont. C'est-à-dire que dans le cadre d'une monnaie complémentaire, l'objectif est de favoriser le développement de réciprocité entre acteurs d'un seul et même territoire en vue de favoriser le développement des échanges sur ce dit territoire. Si développement des échanges il y a, alors on considère que le territoire est plus riche, plus vivant, plus dynamique, et que de ce fait, il est en mesure d'être plus attractif. Alors quand on évoque cela, on pense de fait aux différentes monnaies complémentaires qui sont de plus en plus nombreuses. Alors je vous invite à regarder une petite vidéo qui est développée par Arte sur le magazine Future Mag, qui revient sur l'historique de ces monnaies complémentaires, sur l'explosion de la bulle des monnaies complémentaires, puisque aujourd'hui on est à plusieurs milliers de monnaies complémentaires dans le monde, alors que quand on était dans les années 80, un grand spécialiste qui est passé par la Banque Centrale Européenne n'en dénombrait qu'une petite dizaine. Aujourd'hui, ce millier de monnaies complémentaires, quel impact a-t-il ? Eh bien, il favorise justement un rapprochement entre les acteurs du territoire et entre les usagers des différents services proposés. Dans cette réalité-là, les deux plus grosses monnaies complémentaires présentes à l'échelle européenne sont la British Pound, donc chez nos voisins de Bristol, et le Kimgauer en Allemagne, à Munich. L'Allemagne qui a une grande multiplicité de monnaies complémentaires. Alors, le Kimgauer et la British Pound sont des exemples qui ont une certaine antériorité. En France, on a un exemple qui commence à bien se faire connaître également, qui est l'Euskow. L'Euskow, c'est au Pays Basque et qui concerne toute la région du Pays Basque. On est vraiment sur une identité territoriale forte. Et c'est peut-être grâce à cela que cette monnaie complémentaire fonctionne si bien. C'est qu'elle s'appuie non seulement sur un territoire, mais sur une identité. Et l'identité basque, je ne suis pas là pour spécifier ce qu'elle représente, mais elle s'attache à une langue, elle s'attache à une culture, elle s'attache à des valeurs. Et c'est aussi en ce sens qu'elle parvient à décloisonner l'utilisation par les usagers, parce que les gens y voient la possibilité de valoriser leur territoire. Alors, quand on parle de réciprocité, effectivement, on pense au rôle que pourraient jouer les monnaies complémentaires entre ces acteurs liés au commun, entre ces acteurs liés au commun ou de près ou de loin, qui ont un lien, un impact et qui peuvent avoir un lien avec la ressource mise en commun, sans forcément penser en commun. C'est-à-dire que peut-être pourrions-nous envisager que la mise en place d'une monnaie complémentaire vienne contribuer à une réflexion de l'ouverture du commun vis-à-vis de personnes qui ne sont peut-être pas complètement habituées à la logique de régulation et de redistribution, voire de contribution, mais qui, d'une certaine manière, pourraient venir participer au développement et à la protection de cette ressource.
Comme un commun avec Interphase.
Alors, qu'en est-il aujourd'hui de cette réflexion sur les monnaies complémentaires ? Avez-vous d'autres exemples, peut-être avec les crypto-monnaies ? Quelle est votre position individuelle autour des monnaies complémentaires ? Peut-être Guillaume ?
Oui, si tu veux. Tu dis quelle réciprocité ou qu'est-ce que ça implique la monnaie complémentaire ? Alors, il y a différents types de monnaie complémentaire, je ne vais pas faire le catalogue, j'en serais bien incapable de toute façon, mais pour celles que nous on porte ou on promeut, qui nous arrive d'accompagner, comme il s'est passé sur le territoire du Boulonnais. Boulonnais a sa monnaie complémentaire aussi, la boussole. C'est, ça nécessite forcément une réflexion, au moins une réflexion en commun de la part des différentes parties prenantes, à savoir les commerçants, les citoyens et la force politique. Ils sont obligés de penser à ce commun qu'ils ont, c'est leur territoire. La monnaie, le principe de la monnaie complémentaire, qui n'est pas une monnaie alternative, qui est une monnaie complémentaire, qui se situe à côté de la monnaie officielle, c'est effectivement de favoriser la circulation. Ce qui crée de la richesse sur un territoire, c'est la circulation de la monnaie. Le fait de fermer un peu ce circuit, ou en tout cas de le réserver à un territoire, favorise cette circulation et donc crée plus de richesse pour ce territoire-là. Mais ça oblige à penser de façon un peu politique quand même, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on favorise dans le cadre de cette monnaie? Quels commerces peuvent y être accessibles? N'importe quel commerce, qu'on réserve au commerce de l'économie solidaire pure? Est-ce qu'on ouvre l'entrepreneuriat social, comme on disait tout à l'heure? Est-ce que c'est aussi les commerces centre-ville? Beaucoup de territoires, moi dans les sollicitations qui me font, pensent la monnaie complémentaire comme une possibilité pour réactiver le commerce de centre-ville ou de centre-bourg qui se meurt, on sait très bien... Pourquoi ? Et donc la position qui est la mienne et puis qui est celle de la PES aussi, c'est que les monnaies doivent être réfléchies par tout le monde autour des territoires, par tout ce que ça concerne, pour en faire une monnaie qui est vraiment adaptée. On ne peut pas dupliquer complètement une monnaie d'un territoire à un autre. On ne pourra pas faire exactement la même.
Christian ?
On pourrait se poser la question, mais que reflète une monnaie en fait ? Sur quoi repose une monnaie ? Et une monnaie locale comme une monnaie... nationale, etc. Elle repose quand même sur des rapports économiques et des échanges qu'il faut expliciter en tant que tel. Et je trouve, il me semble que, surtout en ce moment, il est intéressant de regarder quels sont les processus de création d'activités à dimension économique. Et donc, quelle production de valeur correspondent ces processus de création d'activité et quelle valeur et pour qui la valeur. Et quand on regarde les choses de ce point de vue-là, pour s'en faire un tableau exhaustif, mais il y a plusieurs angles d'attaque. On peut regarder ce que des dynamiques produit en termes d'entreprises, on va dire, alternatives. Et on parlait tout à l'heure des SIC et de ce qui est potentiellement, on a peut-être avec les SIC un modèle qui est un modèle le plus proche de ce que pourrait être, du point de vue de l'organisation économique, des organisations économiques liées à des communs. On a une gouvernance partagée, on a une capitalisation qui n'est pas une, qui correspond pas à une propriété individuelle exclusive, etc. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est dans les processus de développement économique des territoires, parce que c'est une question qui me semble normale d'aborder de ce point de vue-là, tant il y a de difficultés, tant il y a d'inégalités par rapport aux conditions économiques et aux conditions de vie et, sur les différents territoires, quels sont les processus de développement économique territorialisé qui peuvent se développer en lien avec des principes d'une économie plus juste, plus proche, limitant la lucrativité des acteurs qui sont, je dirais, à la manœuvre de création de ces entités économiques, etc. Moi, je suis... dans ces dynamiques de territoire, traditionnellement, en fait... la logique, jusqu'à une période relativement récente, c'était plutôt de privilégier des opérateurs économiques extérieurs qui venaient sur des principes et des modalités d'action économique de type classique capitaliste, si l'on veut, venaient développer leurs propres activités sur la base de marchés solvables et donc... de marchés supposés existants pour lesquels il s'agissait de capter un peu de la valeur, ou utilisant des bassins de main-d'œuvre pour développer activités.
Là, justement, les monnaies complémentaires sont complètement en décalage avec
c'est
cela.
C'est pour ça que je veux y revenir par rapport à ça, parce que ce qui est intéressant de regarder, c'est justement comment on crée des activités à partir de pratiques solidaires émergentes, existantes, qui souvent ne sont pas forcément repérées en tant que telles, sont sous les radars des fonctionnements économiques classiques.
Oui, mais justement, en étant sous les radars, avec les monnaies complémentaires, elles pourraient peut-être être un peu plus sur le devant de la scène.
Comment on crée la viabilité économique ? C'est d'abord de reconnaître les acteurs pour ce qu'ils sont, pour leur contribution, et donc trouver des formes de reconnaissance d'une valeur créée en lien avec des pratiques économiques qui ne sont pas reconnues en tant que telles, en faire, les bases d'un développement économique endogène et créer les organisations économiques qui le permettent et appuyer là-dessus cette monnaie complémentaire qui vient irriguer un peu ces échanges nouveaux qui peuvent se créer autour de... Mais voilà, moi je pense que on se faisait la réflexion des acteurs, on va dire, d'un territoire qui se posait ces questions du développement d'activités économiques et qui avait comme première remarque de se dire chez nous, sur notre territoire, on n'a rien de caractéristique de ce qu'on appelle les filières économiques traditionnelles. On n'a rien. On est caractéristique de rien. On n'a aucune industrie spécifique dans notre territoire. Et pourtant, en regardant les choses de beaucoup plus près, il y a des tas de pratiques concrètes à dimension économique liées à des échanges de solidarité locale qui ne sont pas reconnues en tant que telles, qui ne sont pas, valorisées économiquement et viabilisées par la combinaison de ressources et de financement.
C'est peut-être un des enjeux sur lequel les monnaies complémentaires peuvent véritablement avoir un impact. Et c'est aussi un des rôles sur lequel la Chambre des communs et plus largement l'Assemblée peut se poser, réfléchir en lien avec les différents partenaires que sont la PES, Interphase et la chaire ESS qui sont complètement dans ces réflexions-là. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avec Dead Combo, un groupe de jazz portugais. Thank you.
vendredi 10h-11h, c'est comme un commun.
Nous enchaînons notre émission avec un petit retour sur les plateformes coopératives qui contribuent à cette économie des communs, avec la présentation de Julien Lecaille, qui connaît particulièrement bien l'émergence, le développement et la multiplication de ces plateformes, qui pose plusieurs questions sur lesquelles nous reviendrons certainement dans une prochaine émission au travers des monnaies et la place que les monnaies sur le numérique peuvent prendre.
Merci Stéphanie. En quelques minutes, parce que je sais que le temps presse, on a face à l'ubérisation croissante de la société une vraie volonté de plein d'acteurs, des acteurs publics, des acteurs solidaires, de faire une évolution numérique qui ne rende pas fou, qui ne détruise pas la société, qui crée des valeurs et de la solidarité. Et donc l'innovation technologique qu'on appelle plateforme, qui est liée au numérique, on ne sait pas forcément très bien ce que ça veut dire, mais on sait qu'à un moment il y a un ordinateur, et puis il y a un terminal, et puis voilà, c'est une plateforme. Donc interroge beaucoup aussi bien au niveau de la distribution alimentaire que de l'échange d'informations type agenda, que des livraisons en logistique, que des déplacements. Donc ce qui explose pas mal en termes de visibilité médiatique, c'est des choses comme CoopCycle qui fait en fait des livraisons à vélo et qui cherche en fait à faire l'alternative solidaire à Deliveroo, donc sur des principes de logiciel libre, de réciprocité, de mise en réseau d'acteurs qui restent indépendants mais qui se font pas enfermer d'un rapport de domination sur la plateforme. On a un travail de fond aussi qui se fait sur des notions de covoiturage, donc puisque Uber a été un peu le fer de lance de l'ubérisation, donc on a beaucoup cette question du transport de personnes, sachant qu'il y a une vraie difficulté sur la notion de covoiturage, puisque la voiture individuelle, c'est un outil merveilleux qui fait tout dans toutes les circonstances, avec qui on peut aller acheter une baguette de pain ou partir en vacances avec une voiture individuelle. Quand on essaie de faire du covoiturage, c'est plus compliqué, parce qu'il faut s'adapter les uns les autres, se coordonner, se faire confiance entre acteurs, se répartir justement les factures, les incitations économiques. Donc ça nécessite beaucoup plus d'outils comme qui se mettent sous forme plateforme et qui correspondent à plein de fonctions qui doivent être aussi bien de repérer des aires de covoiturage que de valider des contrats entre acteurs, que d'avoir l'information sur quand est-ce que le déplacement se fait, que d'avoir une preuve que le déplacement a été fait. Donc ça, c'est autant de briques qui sont en train d'être développées par une structure qui s'appelle structure pour le développement des plateformes de mobilité, qui s'appelle la Fabrique des mobilités. Donc il y a un programme de l'ADEME qui ne concerne pas que le covoiturage, mais qui travaille beaucoup sur cette question du covoiturage. Et l'idée, c'est de se mettre en commun le plus d'acteurs de la mobilité possible pour que chaque acteur fasse émerger une brique partagée qui puisse ensuite faire naître cet écosystème de la mobilité durable autour de solutions comme le covoiturage, mais pas que.
Merci beaucoup pour ce point extrêmement succinct mais très précis sur comment ces différentes plateformes numériques sont en train de se développer, et avec finalement le refus d'autorisation à Londres qui vient de tomber pour Uber, certainement que cette question sur le covoiturage libre, sur le covoiturage de proximité va prendre une certaine ampleur eu égard à un territoire comme le territoire londonien. Donc je pense que nous aurons vraiment de quoi faire une émission consacrée entièrement à cette question des mobilités dans le champ des communs et plus largement à la question des plateformes dans le champ des communs. Donc le sujet d'actualité cruel, vraiment on a quelque chose à faire autour de ça, donc une prochaine émission certainement à penser sur ces relations-là.
Vous écoutez Comme un commun sur RPL.
Et pour faire un petit agenda des communs, comme on essaye de s'y prêter à chaque fois, donc le mois d'octobre en fait sera l'occasion d'avoir l'Assemblée européenne des communs qui se tiendra à Madrid du 25 au 28 octobre, donc une instance européenne qui permet d'envisager un peu un travail de lobby à l'échelle de l'Europe, et notamment en lien avec la Commission sur qu'est-ce que les communs. Plus proche de chez nous, au mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire en région Hauts-de-France et plus particulièrement sur notre territoire. territoire. Et donc à ce titre-là, l'APES coordonne un itinéraire sur les communs en métropole européenne de Lille, en lien avec plusieurs autres partenaires qui sont pour la plupart représentés ici, à savoir l'Assemblée des communs, l'Assemblée lilloise des communs, la chaire ESS et Interphase. Et donc un itinéraire qui sera proposé le 16 novembre après-midi, les 17 et 18 novembre, un temps fort qui se nomme les Roomix, qui est consacré à cette question de l'économie des communs, vivre des communs. Qu'est-ce que ça veut dire vivre des communs? Peut-on en vivre? Et qu'est-ce que ça sous-entend en termes de réciprocité, en termes de partenariat à la fois entre les acteurs et entre les acteurs économiques et non économiques? Et puis en parallèle de ça, nous avec Interphase, on vous proposera l'exposition Le Point Commun que nous avions proposé à la MRES, qui sera visible pendant tout le mois de novembre à la maison Stéphane Hessel, donc la maison de l'économie sociale et solidaire, dans le hall d'accueil. Et puis après, il y aura plein d'autres choses, mais on en reparlera à la prochaine émission. On se quitte en musique avec Ibrahim Malouf.